Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Et cette semaine, on va parler de perception sociale puisque à mes côtés se trouve Pascal Morchin, enseignant-chercheur en psychologie sociale au sein du laboratoire armoricain universitaire de recherche en psychologie sociale. Alors, quel est l'impact des valeurs sur la stéréotypisation et la discrimination? C'est ce que nous allons tenter de comprendre durant cette émission. Pascal Morchin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez sur les perceptions sociales et plus particulièrement sur les stéréotypes et la discrimination.
Oui, tout à fait.
Alors, déjà, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur ces thématiques?
Oh, c'est simplement, je dirais, pas tout à fait le hasard, mais pas loin. C'est une série de rencontres avec des collègues qui sont devenus des amis, qui s'intéressaient à ce thème-là. Moi, je m'intéressais à l'époque aux questions des représentations sociales, donc ce sont des thèmes très proches. Et puis, de fil en aiguille, on a sympathisé, puis je suis venu à m'intéresser à la question des stéréotypes et de la discrimination, qui par ailleurs, en tant que citoyen, me pose question parfois.
D'accord, alors on va parler de discrimination. Alors de manière générale, qu'est-ce qui explique que certaines personnes, certains groupes, voire certaines communautés soient victimes de discrimination?
Oh, beaucoup de choses. Si on veut synthétiser, on peut dire que d'une part, il y a ce que Goffman en sociologie appelait des stigmates, c'est-à-dire des indicateurs visibles d'une déformation physique ou quelque chose de cet ordre-là, ou des vêtements qui indiquent que les personnes appartiennent à un groupe particulier et qui font que, en général, les autres réagissent de manière plus agressive ou plus violente envers ces personnes dont le stigmate est apparent. Et puis, il y a des personnes ou des groupes qui sont stigmatisables, c'est-à-dire où l'indicateur n'est pas visible, mais est supposé par les observateurs. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on prend les homosexuels, qui sont considérés comme une population stigmatisable. Il n'y a rien d'apparent, a priori. Mais les gens supposent que ces personnes ont certaines caractéristiques, et à partir de là, la discrimination peut commencer à se mettre en place. Mais les facteurs de discrimination sont vraiment multiples, en fait.
Alors, pour les personnes qui discriminent, on a souvent tendance à dire que c'est avant tout par peur de l'inconnu ou par une non-tolérance, peut-être. Est-ce que finalement, ce sont toujours les mêmes critères qui reviennent, ou est-ce que les critères diffèrent d'un individu à l'autre ou d'un groupe à l'autre?
Bon, d'abord, sur la question de la peur, c'est pas totalement juste. Disons que la peur n'est pas forcément tout le temps à l'origine de la discrimination. Ça peut être un des facteurs, mais pas uniquement. Un des premiers facteurs de discrimination, mais vraiment basique, c'est tout simplement le fait que nous percevons l'autre comme différent de nous. Alors ensuite, qu'on le perçoive comme différent en termes d'âge, qu'on le perçoive comme différent en termes de sexe, en termes de type de vêtements, ou bien il aurait certaines marques sur le corps, enfin, ce dont on a parlé tout à l'heure. Bon, encore une fois, les critères sont multiples, mais c'est tout simplement, basiquement, le fait d'être étiqueté comme appartenant à une catégorie repérable. Et à partir du moment où on est étiqueté dans une catégorie repérable, la discrimination est susceptible de se mettre en place. Elle ne va pas forcément se mettre en place, mais elle peut arriver.
Donc ça veut dire qu'on est conscient qu'on fait partie d'une catégorie ?
Oui, on est conscient qu'on fait partie d'une catégorie, même si je ne suis pas certain qu'on soit toujours conscient de notre appartenance à une catégorie. Nous savons que nous appartenons à différentes catégories, en tout cas. Mais ces catégories ne sont pas forcément importantes pour nous de la même manière au même moment. Et quand nous sommes confrontés à autrui, à partir de ce moment-là, on devient conscient qu'une catégorie particulière est activée chez nous, qui est en général conçue soit en opposition, soit en similarité avec l'autre. Et si la catégorie de l'autre est perçue comme étant vraiment différente de la nôtre propre, et à la limite, peu importe le critère, vraiment peu importe le critère, à partir du moment où on a placé l'autre dans une autre catégorie, on l'a perçu comme étant d'une autre catégorie, à ce moment-là, le mécanisme de discrimination peut se mettre en place.
D'accord. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne ou un groupe est victime de discrimination ? Est-ce qu'il y a des degrés ou...
Oui, ça c'est un peu plus simple pour répondre à cette question-là, je dirais, parce que la discrimination, ça se traduit par un comportement. En fait, c'est vraiment un comportement de rejet. Donc, à partir du moment où quelqu'un est rejeté en fonction de son sexe, son appartenance confessionnelle, le fait qu'il soit malade ou handicapé ou syndiqué, enfin, peu importe le critère. Mais à partir du moment où la personne est rejetée, à partir de ce moment-là, on peut parler de discrimination. Alors, le rejet, ça se traduit de différentes manières. Ça se traduit parfois par moins de discussions avec la personne. Ça se traduit le plus souvent, mais vraiment par un rejet objectif, c'est-à-dire la personne est exclue du groupe. Ou alors, ça se traduit au niveau sociologique par des salaires moins importants qui sont attribués aux personnes de groupes discriminés. Oui, ça on peut dire ça, là. C'est un peu plus facile de parler de discrimination quand il y a rejet, quoi.
Donc quand on parle du salaire homme-femme qui n'est pas le même, non. On parle de discrimination, là.
Oui, absolument.
D'accord.
Absolument.
Alors, j'imagine que nos auditeurs sont nombreux à penser qu'ils ne discriminent pas ou très peu. Mais alors, objectivement, est-ce que c'est possible qu'un individu ne discrimine personne dans le monde actuel ?
Oh, j'irai même plus loin. Je ne pense pas que ce soit spécifique dans le monde actuel. Je pense que c'est impossible de ne pas discriminer. Maintenant, il faut peut-être préciser les choses. Ce qui est en tout cas impossible, c'est déjà de ne pas différencier. C'est-à-dire, il faut bien qu'on fasse la différence entre nous-mêmes et les autres, tout comme on va faire la différence entre des objets physiques, je ne sais pas moi, une table et une chaise. Bon. Donc déjà, oui, il faut bien qu'on fasse une différence. Maintenant, cette différence chez les êtres humains, elle est liée à des systèmes de valeurs. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à percevoir les gens de notre catégorie comme étant un peu mieux que les autres personnes. Bon, mais les autres sont bien, mais nous, on est un petit peu meilleurs. Hein. Donc, il y a un système de valeurs qui sous-tend les catégories. Et ça, c'est chez tout le monde. C'est vraiment tout le temps. Ça a une fonction identitaire. Ça permet à l'individu d'avoir une image de lui positive et d'une image de son groupe positive. Donc ça c'est la base. Ensuite, sont des facteurs conjoncturels qui vont accentuer ce mécanisme et qui vont faire que n'importe qui d'entre nous peut être amené à discriminer et discriminer violemment si les circonstances s'y prêtent. Mais en même temps, ça c'est le modèle théorique parce qu'on sait aussi que bien sûr il y a des gens qui refusent de discriminer et en général sur base de systèmes de valeurs d'ailleurs. Mais penser que nous ne discriminons pas et que la discrimination c'est chez les autres, c'est une erreur, fondamentale que fait l'être humain. Et je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui, je pense que ça remonte vraiment très très loin dans l'histoire humaine, ce mécanisme. Et que, oui, c'est vraiment inhérent à ce que nous sommes. Maintenant, on peut lutter contre, ça c'est vrai.
D'accord, donc vous dites que finalement, en discriminant, c'est une manière aussi de se revaloriser.
Oui, absolument. Soit dans tous les cas, quasiment, le produit de la comparaison entre moi et l'autre, ou entre nous et les autres, est positif. Donc c'est soit les gens sont bien, et nous, on est un peu mieux que les autres, soit... si on rentre en compétition, on veut s'approprier les richesses de l'autre, s'il y a de la propagande, s'il y a un conflit armé, etc., etc. Ça devient, l'autre est totalement négatif et nous sommes totalement positifs. Nous sommes dans le bien, eux sont dans le mal. Nous avons la vérité, eux ont l'erreur. Nous sommes humains, ils sont inhumains. Donc c'est la différence. Et là, on rentre effectivement dans de réelles discriminations, parce que le fait de se percevoir un peu meilleur que les autres, oui, on peut considérer que c'est de la discrimination, certains de mes collègues le considèrent, mais on va dire c'est une discrimination minime au quotidien. Je pense pas que ça ait je pense pas que c'est de réelles, lourdes conséquences.
D'accord, et alors est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens, ou alors est-ce qu'on parle plus de discrimination ? Est-ce qu'en fait on peut se dévaloriser son propre groupe en discriminant. Du coup, c'est plus de la discrimination, j'imagine.
C'est arrivé que certains groupes se perçoivent de manière moins positive que d'autres. Et en général, c'est quand le contexte, objectivement, est en leur défaveur. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de discrimination. On pourrait peut-être dire que ces personnes-là, de ces groupes particuliers, s'auto-discriminent, et probablement sans s'en rendre compte d'ailleurs. Mais on ne va plus parler de discrimination, puisque par définition, la discrimination, ça concerne les rapports avec les autres. C'est le rejet des autres.
Et alors, quand on parle de discrimination positive, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Oui, alors ça, la discrimination positive, il y a beaucoup à discuter là-dessus. Les Américains, d'ailleurs, parlent plutôt d'affirmative action. Bon, sur le plan conceptuel, je pense que c'est une erreur de parler de discrimination positive, puisque par définition, discriminer, c'est manifester de l'hostilité, voire de l'agression. Donc, par définition, la discrimination ne peut pas être positive. Maintenant, quand on parle de discrimination positive, c'est vrai qu'on fait référence au fait que l'on va engager des personnes sur base de critères qui, habituellement, sont des critères de discrimination. Bon, et ça, c'est une manière de lutter, a priori, pas idiote. Maintenant, si on pousse un peu la réflexion, on se dit que, et je l'ai entendu, j'ai des collègues sociologues de Nice en particulier qui ont observé ces phénomènes il y a déjà plusieurs années, que quelqu'un qui est discriminé positivement, eh bien, en général, au moins dans un premier temps, déclenche de la suspicion de la part des autres. C'est-à-dire que les personnes commencent à dire « mais c'est pas juste, lui ou elle a été recruté parce qu'il a tel critère, parce que c'est un maghrébin ou parce que c'est une femme, mais on n'a pas pris vraiment en compte ses compétences ». Il y a d'abord un sentiment d'injustice et qui se passe. Et moi, j'aurais tendance à penser que la discrimination positive, dans un premier temps, peut avoir vraiment des effets pervers et renforcer les discriminations. Mais dans un premier temps, parce que par ailleurs, je pense que quand un système social met en place des stratégies pour lutter contre les discriminations, bah, faut voir ce qui se passe à terme, à 10 ans, 100, 50 ans, voire 100 ans. Et à terme, bah, peut-être bien qu'il faut en passer par là pour que ça avance.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui joue dans notre environnement pour qu'une personne devienne discriminante envers une autre ?
Alors, pour qu'elle devienne discriminante, il faut qu'elle se... Un des modèles que nous avons, c'est le fait que la personne se sente dans une situation d'inéquité, sente que la situation n'est pas juste, en fait. Et l'impression, et c'est vraiment l'impression, c'est pas forcément la réalité, hein, mais il faut qu'elle ait l'impression que l'autre a plus... qu'elle le mérite et à plus que elle-même devrait avoir. Si moi je commence à me dire c'est pas juste, on donne plus à un tel et c'est pas mérité, c'est nous qui devrions ou c'est moi qui devrais avoir plus, ça c'est une perception d'inéquité, d'injustice qui est un des mécanismes à la base des discriminations.
Mais qu'est-ce qui leur fait se rendre compte de ça justement ? Enfin, est-ce que c'est l'éducation qu'ils ont eue ?
Alors ça peut venir de l'éducation. L'éducation peut renforcer évidemment très largement soit le fait de discriminer, soit le fait de ne pas discriminer. Ça s'éduque aussi, hein, la discrimination, comme la non-discrimination s'éduque. Mais ici, en ce qui concerne la perception d'équité ou d'inéquité, oui, ça peut venir de l'éducation, mais ça vient aussi tout simplement de l'observation de la réalité sociale et de ce que nous disent les médias.
Les médias, alors,
Tout simplement. Si j'entends dire qu'il y a une crise, par exemple, hein, c'est le modèle du bouc émissaire, hein. Si j'entends dire qu'il y a une crise et que la crise est réelle en plus, mais le simple fait que je crois que la crise est là et que l'on me dit que d'autres sont dans une meilleure situation économique que la mienne et que je trouve que c'est pas juste, à partir de ce moment-là, ça va déclencher ce sentiment d'inéquité. Que la crise soit réelle ou pas. Parce qu'on est vraiment dans des modèles psychologiques. C'est-à-dire, la crise peut exister, être perçue comme telle, et elle aura les mêmes conséquences. Mais une crise peut ne pas exister. Mais si les personnes sont persuadées qu'il y a crise, alors le phénomène risque de se passer quand même. Parce qu'ils vont interpréter le phénomène d'une certaine manière.
D'accord. Alors, est-ce qu'en fonction de l'âge, on est plus ou moins discriminant ?
Ben, y a certaines recherches qui vont dans le sens que, en gros, plus on est âgé, moins on est tolérant, plus on a tendance à développer à voter à droite sur l'échiquier politique, par exemple, en France. Et aussi, plus on a tendance à rejeter les autres. Il y a d'autres recherches qui montrent l'inverse, en fait, et il semblerait que tout dépend du système de valeurs qui est important pour les gens et qu'elles ont développé pendant leur développement.
Et tout de suite, alors, une petite coupure musicale. On écoute Dojo Cut avec le titre « Easy to come home ». Vous êtes toujours dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes 88.4. Donc toujours à mes côtés, Pascal Morchin, enseignant-chercheur au sein du LOREPS, avec qui nous parlions donc de discrimination. Alors vous menez et vous suivez plusieurs travaux de recherche en même temps, et vous vous êtes notamment intéressé aux gens du voyage. Alors déjà, pourquoi cette communauté est-elle victime de discrimination ?
Ah, alors là encore, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons historiques. Hein. Historiquement, les gens du voyage sont discriminés depuis au moins Louis XIV, hein, puisque sous Louis XIV, il leur fallait des passeports particuliers qui permettaient de les repérer déjà. Alors, une des raisons pour lesquelles les gens du voyage sont discriminés, outre le fait que, d'une certaine manière, on voit qu'ils sont différents, parce qu'on voit qu'ils ne vivent pas comme la majeure partie des gens, je dirais facilement comme nous, quoi, dans des maisons, eux vivent dans des caravanes. Mais je pense qu'une des raisons, c'est la mobilité, en fait. Il y a des études en Espagne, de Juan Pérez en particulier, qui le montre, c'est que tant que des communautés de gens du voyage, et donc ça on est en Espagne, hein, mais, étaient mobiles, étaient itinérantes, il y avait des perceptions extrêmement négatives, et à partir du moment où les gens du voyage se sont sédentarisés, petit à petit, les perceptions ont changé. Et donc ça, je pense qu'un des critères essentiels, c'est le fait que ces personnes sont mobiles, ne sont pas repérables, vraiment, probablement ont une identité, des contours identitaires un peu flous, d'une certaine manière, on ne sait pas trop comment les percevoir. Donc je pense que ça doit jouer beaucoup dans la discrimination, sans compter ce qu'on entend dans les discours en général des politiques ou au quotidien, basés sur des comparaisons. Et ce qu'on entend très souvent, c'est « mais comment ces gens-là ont des grosses voitures alors que nous, on n'a même pas de grosses voitures ?» Et donc les gens utilisent des critères comme ça, objectifs, pour justifier des conduites discriminatoires. Et ils oublient que, en fait, les gens du voyage, en l'occurrence, eh bien, ils n'ont que la voiture et que la caravane. C'est tout.
D'accord. Alors, quel genre d'études est-ce que vous avez menées pour savoir si cette communauté était bel et bien victime de discrimination ?
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des études expérimentales sur cette question-là, parce que le fait que les gens du voyage soient discriminés, c'est un fait qui est assez établi, je dirais déjà par des collègues sociologues ou simplement si on observe la réalité. Nous, on a mené des études expérimentales dans lesquelles on a demandé à des personnes d'imaginer habiter un village. Selon les conditions de l'expérimentation, on leur disait dans tous les cas de figure, bon, il va y avoir un terrain d'accueil pour gens du voyage, et on mesurait leur réaction au terrain d'accueil. Alors, dans certaines études, on mesurait à quelle distance les gens aimeraient bien que le village, le terrain d'accueil soit de chez eux. Dans d'autres cas de figure, le terrain était déjà figuré sur la carte, et on essayait de mesurer les réactions des gens au fait que le village était proche de chez eux ou loin de chez eux. Et ce que l'on a montré, mais d'une certaine manière, c'est intuitivement, on pouvait s'y attendre, mais c'est qu'en général, plus le village est proche du terrain ou réciproquement, plus les gens sont méfiants, sont hostiles, disent qu'ils ont peur. Ça c'est un petit peu attendu en même temps. Mais surtout quand le terrain d'accueil est placé sur le territoire de leur commune. Parce que quand le terrain est placé sur une autre commune, mais à la même distance de chez eux, la réaction est différente. Donc, c'est vraiment des questions qui sont liées à l'occupation du territoire. Dans ces recherches-là, et d'ailleurs on est en train de réfléchir dans ce sens, ça a l'air d'être des réactions vraiment liées à l'occupation du territoire. Là.
D'accord, donc de manière générale, c'était très éloigné du domicile des personnes à qui on posait la question ?
Pas forcément très éloigné selon les cartes, c'était des fausses cartes géographiques, mais
est-ce que c'était près d'autres habitations ou c'était complètement isolé ?
Non, c'était en dehors du village et en dehors d'autres habitations, totalement. C'était représenté de cette manière-là, en tout cas, à proximité d'un cours d'eau et à proximité de routes. On les avait représentés comme ça, ces terrains. Mais la distance, on va dire, sur la carte, les personnes avaient une échelle et la carte nous disait que le terrain pouvait se situer, je crois, entre 2 et 4 kilomètres, me semble-t-il, de mémoire, de la maison de la personne. Pas forcément du village, mais de la maison de la personne, qui était symbolisée sur la carte.
D'accord. Alors, vous avez également mené des études sur les personnes atteintes d'obésité. Et donc, vous avez pu observer qu'elles étaient victimes de discrimination, notamment lors de recrutement pour un emploi. Mmh. Alors, comment s'est déroulé votre travail ?
Alors, là encore, on a travaillé de manière expérimentale, pas comme le fait Jean-François Amadieu en sociologie, hein, qui lui avait montré des discriminations sur des personnes obèses en utilisant le testing. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé des CV à des recruteurs professionnels d'une grande entreprise en France. CV pour une personne qui postulait un poste de téléprospectrice et un poste donc dans lequel ce qui est important, c'est la voix et pas l'aspect physique. Le CV avait été prétesté comme étant plutôt un bon CV par d'autres recruteurs professionnels. On avait fait coller le CV au profil de poste de téléprospectrice et nous avions manipulé la photo. C'est-à-dire que sur la moitié des CV, on avait mis la photo d'une personne dont on avait aminci le visage. Et sur l'autre moitié des CV, qui étaient exactement les mêmes, on avait la photo de la même personne, mais on avait grossi le visage. Et nous avions prétesté les photos comme étant des photos bien perçues, soit d'une personne plutôt mince, soit d'une personne obèse. Et donc on a envoyé ces CV à des recruteurs, 400 en tout. On n'a eu que 75 réponses, mais c'était déjà suffisant pour pouvoir tirer des conclusions statistiques. Et c'est là qu'on a pu montrer que... Alors, on ne peut pas vraiment dire que la personne est discriminée parce qu'on n'avait pas demandé au recruteur est-ce que vous prenez la personne ou pas. Mais on avait simplement demandé comment il jugeait la personne globalement. Et on va dire plutôt positivement, plutôt négativement. Les questions n'étaient pas posées comme ça, mais c'était ça qu'on mesurait. Et ce que l'on a pu mesurer, c'est que la même personne, avec le même CV, le même profil de poste, etc., est jugée nettement moins positivement quand elle est obèse que quand elle ne l'est pas. Et donc, on n'est pas ici dans le processus complet de recrutement, mais on est au début du processus du recrutement, parce qu'évidemment, ce que l'on suppose, et ce qu'il faudrait qu'on montre aussi dans d'autres études, c'est que le fait d'avoir bien perçu la personne comme obèse et l'avoir perçue négativement va avoir une conséquence sur la décision de la rencontrer ou la décision de l'engager. Là, il y a d'autres études qui nous permettent de faire cette hypothèse-là très raisonnablement.
Alors du coup, quelle image se faisaient les recruteurs des personnes obèses ?
Quelle image ?
Ils étaient perçus plus négativement que, ou en tout cas moins positivement.
Moins positivement, oui. Ah oui, mais en termes de personnalité, nous avions proposé à ces recruteurs des traits, de décrire la personne selon deux types de traits. Alors, mais ça, ce n'était pas écrit comme ça sur le questionnaire. Hein. Mais il y avait des traits que nous appelons des traits d'utilité sociale. Alors, un trait d'utilité sociale, c'est un trait de personnalité qui est accolé à des personnes. Et ce sont des traits qui sont relatifs au fait que la personne peut être vendable ou pas. Par exemple, être compétent. Être compétent, être dynamique, ça sont des traits dits d'utilité. Et puis, on avait mis des traits de désirabilité, qui sont des traits qu'il est socialement acceptable d'avoir, par exemple être gentil, être sociable, mais c'est pas très vendable économiquement. Mmh. Donc on avait mis ces deux types de traits, et en fait ce que nous avons montré, c'est que sur les deux types de traits, autant sur des traits d'utilité que sur des traits de désirabilité, la personne était jugée donc moins positivement que quand elle est obèse que quand elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle est globalement perçue comme un peu moins utile socialement et aussi un peu moins désirable. Alors il y avait une vague tendance à une différence sur certains types de traits, mais l'étude est déjà un petit peu... Ça fait déjà un bout de temps qu'on l'a faite, et là je n'ai plus tous les résultats en tête. Mais il y avait quand même une toute petite différence qui laissait supposer que le traitement de l'information était différent, malgré tout, chez les recruteurs, en fonction du fait que la personne est obèse ou pas. Mais le sens de la différence, ça, je serais incapable de vous en reparler aujourd'hui.
D'accord. Et alors, vous avez également travaillé sur, donc dans le même principe toujours de recrutement pour un emploi. Mais là, vous avez travaillé avec des personnes handicapées, enfin en fauteuil roulant.
Oui.
C'est ça. Alors, donc, c'était le même principe également avec une photo.
Alors, c'était le même principe, sauf que pour cette étude-là, on n'avait pas travaillé dans le recrutement. On avait présenté la photo d'une personne, toujours la même, en fauteuil roulant ou assise sur un fauteuil de salon. Et là encore, ce que nous avions montré, on voulait pas dans un, on voulait d'abord voir si la présence du fauteuil roulant allait affecter la perception de la personne, ce qu'on supposait, ce qui était raisonnable d'attendre. Mais on voulait pas dans un premier temps placer cette étude dans le domaine du recrutement. En revanche, à Strasbourg, des collègues travaillent avec le même type de matériel dans des situations de recrutement. Nous, on était là encore dans un premier temps, comment une personne est perçue selon qu'elle est en fauteuil roulant ou pas. Et là encore, on a pu montrer que, et c'est assez cohérent avec ce que montrent les collègues d'ailleurs et les études dans ce domaine, c'est que lorsque la personne est en fauteuil roulant, elle est perçue comme un petit peu moins compétente que quand elle ne l'est pas, mais elle est perçue comme plus désirable. En gros, tout se passe comme si les gens se disaient, cette personne-là, voilà, elle est peut-être pas terrible sur ses compétences, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est bien. Comme s'il compensait, en fait. Ce qui est un mécanisme assez connu, d'ailleurs, dans ce genre de processus.
D'accord. Et alors, très très rapidement, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous souhaiteriez travailler et sur lesquels vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous intéresser ?
Ou tout plein, comme tous les chercheurs. Rapidement, non. En ce moment, il y a tout un pan de recherche que je mène avec Georges Scadron de l'Université de Nice sur ce que nous avons appelé la déterminabilité, c'est-à-dire des contextes dans lesquels les gens sont plus influençables. Alors, c'est un contexte qui pourrait s'appliquer d'ailleurs en discrimination. Et là, il y a effectivement énormément de choses à faire. Ce que nous avons pu montrer, en tout cas depuis déjà 10 ans maintenant, c'est que quand une personne sait qu'on a de l'information sur elle, elle devient beaucoup plus influençable et sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Et elle est beaucoup plus influençable, y compris par des influences non conscientes, dont elle n'a pas conscience.
D'accord. Je suis désolée, je vais vous arrêter là.
Arrêtez-moi.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas. C'était Le Labomatique, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations et le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. À bientôt.